Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïque FM.
I'm sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey. Now I'm wild.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous mensuel de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir la richesse et la diversité des musiques juives, musique juive d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio Annie Kessous-Dreyfus. Annie, bonsoir.
Bonsoir Hervé.
Alors, ça va être un peu dur de vous présenter en quelques mots parce que, si je puis me permettre, vous avez un pédigré tellement long que ça va être un petit peu dur. Je vais essayer de résumer tout ce que vous avez fait dans votre longue carrière. D'abord, vous êtes docteur en musicologie de l'Université de la Sorbonne. Vous avez enseigné pendant plusieurs années à l'Institut national des langues et civilisations orientales, ainsi qu'à l'Institut universitaire d'études juives Elie Wiesel. Et vous êtes l'auteur de nombreux articles relatifs aux musiques juives. Et c'est pour ça que vous êtes bien entendu là. Et vous êtes notamment intéressé à la période du 19e siècle en France et en Allemagne. Est-ce que c'est parce que vous êtes originaire de Metz ou pourquoi cette période ?
C'est-à-dire que, en fait, bon, je suis effectivement d'une famille lorraine, une famille ancienne de Lorraine, mais je me suis intéressée, pour ma thèse, en tout cas, au XVIIIe siècle et au Moyen-Âge, parce que donc, j'ai fait ma thèse sous direction du professeur Jacques Chaillet. Et donc, c'était comment, au XVIIIe siècle, on connaissait la musique du Moyen-Âge. Donc, ça n'avait rien à voir véritablement avec la musique juive. Et c'est par la suite que j'ai pu enseigner, enfin, j'ai créé, on va dire, le premier cours à la demande de M. Graham Bassirat aux langues oraux de musique juive. Donc c'était un petit peu difficile parce qu'il n'y avait pas encore du tout de documentation.
Alors pardonnez mon erreur parce que je vous ai donné comme spécialiste du 19e, mais en fait vous êtes justement venu ce soir pour nous parler d'un compositeur, juif, Charles Valentin Alcan, auquel vous avez consacré un ouvrage qui, je dois dire, est assez époustouflant, qui a dû vous demander de longues années de recherche. Cet ouvrage est aujourd'hui publié sous la forme d'un livre qui s'intitule « Le passant du pont de l'Europe, Charles Valentin Alcan, entre tradition et modernité ». Et c'est publié aux éditions Massorède, mais on rappellera à nos auditeurs et auditrices, bien entendu, à la fin de cette émission, où se procurer ce livre. Et je pense que beaucoup de nos auditrices et auditeurs ne connaissent pas du tout Charles Valentin Alcan. Alors, avant d'entrer dans le sujet et de nous faire connaître ce compositeur juif hors norme, je vous propose d'écouter un premier morceau qui s'intitule « Le festin des hommes ». D'entendre le festin d'Ésope de Charles Valentin Alcan, que j'appellerai Alcan peut-être plus simplement. C'est une œuvre, Annie, d'une modernité assez incroyable. De quand date-t-elle ?
Oui, c'est une œuvre qui est tout à fait moderne déjà pour son époque.
Oui, et mais alors justement, à propos d'Alcan, je pense que c'est quelque chose que vous voulez souligner, que vous mettez bien en exergue dans votre livre. Il est, Alcan est un compositeur du 19e siècle. On peut rappeler peut-être ses dates de naissance et de mort, puisque c'est important, je crois qu'on fête son bicentenaire cette année.
Voilà, c'est de 1813 à 1888, sa vie, donc c'est déroulé à cette période. Et le Festin d'Ésope est particulièrement intéressant parce que, bon, à étudier son œuvre, je me suis rendu compte de l'importance du langage. Pour lui, des expériences de langage. Donc, vous soulignez très justement, Hervé, qu'il a un langage qui est déjà très moderne, mais aussi il fait des expériences de nuances, par exemple, d'excessivement forte, excessivement piano, d'éléments qui sont tout à fait nouveaux pour son époque, ses titres, ses indications, et des œuvres qui durent, qui peuvent excéder une centaine de pages aussi. Donc, c'est quelqu'un qui a développer un langage et qui s'est beaucoup intéressé au langage. Donc le Festin d'Ésope, on le rappelle, c'est donc l'histoire d'Ésope qui veut prouver que le langage est la meilleure et la pire des choses, ce qu'on trouvait déjà dans les proverbes. Et on peut lire cette œuvre-là à la fois, bien entendu, comme une illustration des fables d'Ésope, mais aussi avec une résonance certainement au niveau du judaïsme et au niveau d'une lecture traditionnelle et même d'une lecture mystique quand on sait l'importance de la linguistique pour la création du monde dans la pensée kabbalistique.
Alors, excusez-moi de vous couper, puisque vous parlez du judaïsme, est-ce qu'on pourrait resituer Charles Valentin Alcan dans ce judaïsme du 19e? Est-ce que c'est son vrai nom d'abord, Alcan? Il me semble qu'il avait un autre, c'était pas Alcan Morange?
Voilà, c'est-à-dire que oui, c'est une famille Morange, qui est originaire de la région Lorraine aussi, de Metz. Enfin, le grand-père est né à Metz, son père est né à Paris en 1779, sa mère en 1785 à Louvigny, donc ça n'est pas loin de Metz, une vingtaine de kilomètres. Mais le père est né donc à Paris en 1779, et puis sa vie va se dérouler comme celle de nombreux Lorrains après l'émancipation, donc à Paris. La famille aura 6 enfants. Le père Alcan Morange aura une petite école de musique et de grammaire en même temps. Il va initier ses enfants à la musique. Ils auront tous des prix de conservatoire. Et à la naissance de Charles Valentin, donc en 1813, la famille va prendre le patronyme du père, donc Alcan. Et c'est ainsi qu'ils vont s'appeler par la suite. Donc le nom de Morange ne figurera plus.
D'accord. Voilà. Et il faut souligner que l'émancipation a permis à de nombreux juifs, musiciens juifs, en fait, de pouvoir faire une carrière, je dirais, dans la musique, que ce soit d'artiste ou de compositeur, puisque enfin le conservatoire leur a été ouvert. Et je crois qu'Alcan a commencé le conservatoire, c'était le conservatoire supérieur de musique assez jeune, non? Est-ce que c'était un enfant prodige?
Oui, c'était un enfant prodige. Moi, à l'époque, on parlait que de conservatoire, il n'y avait que le conservatoire. Oui, il est rentré au conservatoire, je crois, à l'âge de 6 ans, enfin, je sais, on le sait, à l'âge de 6 ans, l'année suivante, il avait un prix de solfège, donc à 7 ans, à 10 ans et demi, il a eu un prix de piano. Et puis sa carrière s'est déroulée, enfin a commencé très tôt, il a pu ainsi se produire dans les salons parisiens, en particulier dans les salons de la princesse de la Moscova. Et donc il était adulé par les différents milieux artistiques de l'époque. Et donc il a fréquenté toute l'intelligentsia, on peut dire, de l'époque.
Et il a rencontré qui comme compositeur? Quels sont un petit peu ses compositeurs référents, ses contemporains et les compositeurs qu'il a admirés?
Alors Liszt était son jeune contemporain aussi. Il dit d'ailleurs combien il a été triste parce que jusqu'à présent il était en fait la vedette, et quand Liszt est arrivé, il lui a un petit peu volé le vedettariat. Mais en fait, ils sont restés quand même amis. Par exemple, Liszt avait demandé à Alcan par la suite de venir au conservatoire de Genève et d'enseigner là-bas où lui-même enseignait. Mais Alcan n'a pas accepté. Il était assez casanier et assez attaché à Paris. Alors Alcan a une carrière très brillante au début, donc comme on le disait, au niveau déjà d'enfants virtuoses, d'enfants prodiges.
Il était pianiste,
oui. Voilà, un des meilleurs pianistes. Il est devenu ensuite un des meilleurs professeurs de Paris. Et donc l'ascension, on peut dire, a continué comme ça jusque vers les années 1847-48. Il a beaucoup produit, il a souvent joué sur scène, mais il a créé de nombreuses œuvres majeures. Et puis, à partir de 1848, il est refusé au poste de son professeur Zimmermann à la classe au conservatoire de Paris, enfin au conservatoire. Et puis, en 1849, Chopin meurt. Quelques années après, ce sera son père. Donc, c'est une période sombre et ça va un peu décider du tournant de sa vie. Et il va se retirer peu à peu et consacrer pratiquement l'intégralité de sa vie à l'enseignement d'une part, mais en privé, il aura des élèves très prestigieux, à la composition, bien entendu, et à la traduction de la Bible.
Alors je vous propose d'écouter tout de suite une seconde pièce de Charles-Valentin Caen qui a le très beau titre de « Le temps qui n'est plus ». Le temps qui n'est plus, prélude opus 31 numéro 12 de Charles-Valentin Caen, interprété ici je crois par Laurent Martin. C'est dans quel extrait de quel CD on va donner peut-être à nos auditeurs, on donnera peut-être plus tard les CD où on peut trouver les œuvres de Caen. En fait, est-ce qu'il existe beaucoup d'enregistrements de Caen?
Oui, il existe des enregistrements excellents d'Caen. Il y en a de nouveaux de cette année, par exemple de Pascal Amoyal. Mais on a eu de très grands disques, par exemple de John Ogden. C'est ainsi que commence mon préfacier, qui est un véritable privilège pour moi d'avoir eu cette préface de Pierre Brunel. Je n'aurais jamais l'importance qu'ont les cours et l'importance de la pensée de Pierre Brunel.
Dans votre livre, hein, c'est la préface de votre livre.
C'est la préface de mon livre, donc l'interprétation de John Ogden que soulignait Pierre Brunel. Il y a aussi les enregistrements de Ronald Smith et des enregistrements de Marc-André Hamelin. On a entendu tout à l'heure le Festin d'Ésope dans son interprétation, qui est absolument splendide.
Et nul doute que nous aurons aussi beaucoup d'autres œuvres d'Alcan, puisque, comme on l'a dit, c'est le bicentenaire de la naissance d'Alcan. Il est né en 1813, nous sommes en 2013. Donc, je pense que cette année, on en parlera tout à l'heure, va être l'année Alcan et qu'on entendra beaucoup d'Alcan et certainement des nouveaux enregistrements d'Alcan. En tout cas, à cette pièce, quand j'ai entendu cette pièce, effectivement, ça m'a évoqué tout de suite Chopin. Et ça amène une question que je ne peux pas manquer de vous poser, puisque notre émission s'appelle Musique juive d'hier et d'aujourd'hui. En quoi cette musique que nous venons d'entendre, qui est très belle, mais en quoi se rattache-t-elle au judaïsme? En d'autres termes, en quoi Alcan peut-il être considéré comme un compositeur juif ou tout au moins comme un compositeur de musique juive, Annie?
Oui. Alors tout d'abord, je rappellerai ce que vous dites là, Hervé. C'est l'amitié de Chopin et d'Alcan. S'il y a eu un compositeur qu'Alcan a aimé et dont il a été véritablement apprécié aussi, c'est bien Frédéric Chopin. Et la tristesse qu'il a eue à son décès, il était vraiment, vraiment comme si c'était vraiment quelqu'un de très proche et de sa famille. Alors la partie du judaïsme d'Alcan, je crois qu'il faut la voir sous plusieurs angles. Déjà, l'implication qu'a eu Alcan dans la vie juive de l'époque, elle n'est pas intense étant donné la personnalité du compositeur. Mais déjà par sa famille, c'était une famille très proche des œuvres sociales juives. Le père avait une responsabilité au niveau des sociétés de secours israélites. Alcan aussi a participé par la suite. Enfin, on trouve dans son testament de nombreux dons pour des lits d'hôpitaux juifs. Et puis au niveau de la vie musicale, il a été sollicité, par exemple, avec Alevi pour la nomination de Samuel Nombourg comme chantre de la synagogue de Nazareth. On lui a demandé aussi, quand la synagogue a été construite en 1851, pour l'inauguration, de tenir l'orgue et même par la suite donc de devenir le titulaire de l'orgue, ce qu'il a accepté, puis il a démissionné 15 jours après, ça c'est une autre histoire.
Ce qui est assez incroyable, si vous me permettez de vous couper là, c'est que beaucoup de musiciens compositeurs connus se sont succédés à Nazareth, puisqu'il y a eu également Jacques Offenbach qui est resté quelques mois à Notre-Dame de Nazareth, et là aussi il a démissionné parce que on jugeait sa fonction incompatible avec l'exercice de la musique synagogale de l'époque, puisqu'il donnait des opérettes le samedi, et ça ne plaisait pas beaucoup à l'administration du temple.
Tout à fait. Alcan a démissionné de lui-même, en fait. On ne sait pas exactement pourquoi. On sait qu'il y a une lettre dans laquelle il avait donné des explications et des motifs artistiques à sa démission. Et alors, évidemment, on peut se demander, moi j'ai posé la question à travers quelques exemples comme ça, de la pensée, de la volonté d'une certaine musique synagogale dans les synagogues de l'époque, française et puis allemande aussi. Et puis, au contraire, de la liberté, peut-être que vous les gardez, Alcan.
Il faut dire qu'à cette époque, c'est une réorganisation complète du culte musical dans les synagogues. On cherche à établir un culte plus solennel, un culte basé, il faut le dire, sur le modèle chrétien. Il y a l'introduction de l'orgue en 1856, et il y a surtout une refonte de ce culte en introduisant des mélodies qui sont harmonisées, un chœur d'hommes et d'enfants. Et Alcan a joué un rôle. Vous avez parlé tout à l'heure de Fromental à Lévis. Je pense que tous les deux faisaient partie de la commission consistoriale du chant, donc c'est aussi une preuve de l'adhésion d'Alcan à ce renouveau du judaïsme qui se passait en France, non ?
Adhésion, on ne sait pas, il faisait entendre sa voix certainement déjà. L'introduction de l'orgue est bien antérieure à 1856.
Mais elle a été entérinée en tout cas par le grand rabbin Salomon Hillman à cette époque-là, même si, oui. Si l'orgue était utilisé auparavant, mais il faudra attendre quand même cette année-là pour que ça soit définitivement admis, je dirais, par le rabbinat, par le grand rabbinat.
Oui, en 1844, il y a eu un rabbin aussi qui s'était opposé et qui finalement a permis que le mariage de sa fille se fasse au son de l'orgue. Donc et puis bon, on avait aussi, enfin les Français avaient le modèle de CSN donc en Allemagne, qui était tout à fait au début du siècle. Mais Alcan n'a jamais manifestement refusé de participer à des commissions, mais il n'a pas écrit pour la synagogue véritablement.
Et pourtant, vous nous avez amené, c'est dans vos cartons, alors je vais vous contredire, mais une ancienne mélodie de la synagogue, son opus 31, que nous allons entendre dès à présent, et vous nous expliquerez cette contradiction. Donc nous venons d'entendre une ancienne mélodie de la synagogue, opus 31, numéro 6. C'est bien de Charles-Valentin Alcan. Hein.
Oui, c'est un extrait des 25 préludes dans tous les tons majeurs et mineurs pour piano ou pour orgue, opus 31. qui sont parus en 1847 chez Brandus. Alors cette œuvre est intéressante à entendre déjà parce qu'elle est jouée par Samuel Hoogland sur un Pleyel de 1858, donc on a la sonorité, mais c'est une œuvre qui n'a pas été écrite pour la synagogue, ceci dit, ce n'est puisque ça fait partie des 25 préludes. Mais Alcan a noté dans une de ses explications, une de ses rares notices, que ces œuvres pouvaient, enfin les 25 préludes pouvaient être utilisées comme préludes ou comme antiennes dans les différents offices. Alors pensait-il à des offices exclusivement juifs? Je ne pense pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a certainement un aspect religieux dans ces préludes aussi.
Mais alors, son titre, c'est bien Ancienne Mélodie de la Synagogue, ça veut dire qu'il a fait œuvre un petit peu d'ethnomusicologie, si on peut dire. Il a recueilli cette mélodie, il l'a notée ou...
Oui, il l'a recomposée lui-même. Parce que j'ai l'impression, enfin pour ma part, je ne reconnais aucun air de la liturgie ashkenaze intégralement là, mais des bribes. Donc, il pratique comme ça, d'ailleurs, dans ses compositions, par exemple pour sa musique La Foi. Il peut déstructurer une œuvre, aller chercher quelques extraits à droite et à gauche, et puis recomposer quelque chose dont le caractère va être effectivement proche, et puis les éléments ne seront pas du tout étrangers.
Ce qui explique peut-être que l'œuvre d'Alcan est intemporelle, comme vous nous le montrez si bien dans votre livre, en fait.
Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est tout à fait une autre façon de procéder que celle de Salomon Lerossi, par exemple.
Et lorsque nous avons préparé cette émission, Annie Kessous-Dreyfus, vous m'avez demandé de faire entendre à nos auditeurs le Onotovo de Samuel Nambourg, dont nous avons parlé tout à l'heure, et notamment le Chamnou. On est à peu de choses près, nous avons quitté Kippour depuis une dizaine de jours, et nous ferons entendre immédiatement la suite de cette pièce, la Etzraïm de Alcan. Je vous propose de l'entendre dès à présent, d'enchaîner donc ces deux pièces, et puis vous nous direz après pourquoi vous avez souhaité que nous enchaînions ces deux pièces.
Yeah.
entendre successivement le Onotovo et en particulier la partie Oshanu de Samuel Lombourg dans une très belle interprétation, un enregistrement historique de Léon Algazi avant-guerre qui a été réédité sur 33 tours. Ça sous le titre de French Music of the Synagogue, suivi de la pièce de la prière Etzraim, prière composée par Alkan à la demande de Samuel Lombourg lui-même. Alors, est-ce que c'est pour ça que vous avez voulu enchaîner ces deux pièces, Annie? Dites-nous tout.
Enfin, pas uniquement. C'est-à-dire que Lombourg a demandé à Alkan, comme à Lévy aussi, à Meyerbeer, à Hellman, donc le grand compositeur de l'époque, pour enrichir le recueil qu'il était en train donc de réaliser. Il a demandé à ce compositeur de lui donner des compositions originales. Alors Alkan a donné deux pièces, une en 1847, une autre en 1857. Un Esraïm, qui est de 1847, un Alléluia en 1857. Et je voulais faire entendre en fait ces deux œuvres parce que dans le Chadesh Yomenu Yomenu Kekedem du Etzraïm de Alkan, la musique en fait du Oshamnu est utilisée. Et bon, je me suis posé la question avec quelques explications, peut-être d'exégèse aussi, de savoir pourquoi il y avait eu cet emploi-là, qu'on ne trouve nulle part ailleurs, parce que on a bien entendu les partitions de Lombourg, de Esraïm ou bien d'autres. J'ai regardé pratiquement, je veux dire, tous les recueils de l'époque, et on ne trouve jamais cette particularité.
Mais dans votre livre, et c'est ça qui est passionnant, parce que c'est une espèce d'enquête que vous menez, Alkan est un homme particulièrement énigmatique, en fait, dans ses compositions. Il est toujours là où on ne l'attend pas, en fait. Il compose des anciennes mélodies de la synagogue qui sont en fait ses compositions. Dans une de ses compositions, il a une citation, comme vous le dites, de Lombourg. On verra qu'il, parfois même, il s'auto-cite lui-même, on le verra dans une autre pièce. C'est un compositeur qui se lie à différents niveaux, et c'est ce qui ressort particulièrement bien de votre livre. Donc, consacré à Charles Valentin Alkan, le passant du pont de l'Europe. Vous nous expliquerez après pourquoi ce titre, d'ailleurs, de l'œuvre de Alkan. Alors, dites-nous d'ailleurs pourquoi le passant du pont de l'Europe tout de suite, en fait, pourquoi avoir intitulé ce livre ainsi en parlant de Alkan?
Eh bien, tout d'abord parce que Alkan s'est fait photographier de dos. Il avait peur des photographies. Enfin, il l'explique dans ses lettres à son ami Ferdinand Hiller. Il avait peur, alors il a dit, voilà, il s'est fait représenter de dos. Et quand j'ai vu ce portrait, cette apparence qu'il avait, j'ai tout de suite pensé à des tableaux de Caillebotte. Et en voyant des tableaux de Caillebotte, bon, je ne connaissais le pont de l'Europe que celui qui est le plus connu, donc qui se trouve au musée du Petit Palais de Genève. Et je ne connaissais pas cette version, en fait, qui se trouve sur mon livre maintenant, et qui est aux États-Unis, où l'on voit trois personnages, et un des personnages qui va peut-être vers l'avenir, mais sans grand enthousiasme en tout cas, m'a fait penser à Charles-Valentin Alkan. Il se trouve aussi que le centre de mon livre, c'est comme vous le disiez Hervé, l'enquête sur les trois anciennes mélodies juives, et quand Alkan les compose, il habite près du pont de l'Europe. Et d'ailleurs, on voit sur le tableau la maison dans laquelle il habitait. Enfin, pas dans celui qui se trouve aux États-Unis, mais dans celui du Petit Palais, enfin, de Genève. On voit sa maison. C'est quelqu'un donc qui a certainement passé sur le pont de l'Europe. Et puis, cette idée d'Europe, de l'importance du judaïsme en Europe, de l'importance de la pensée juive au moment de l'humanisme, tout cette, ce sur quoi est fondée l'Europe.
Mais vous dites d'ailleurs dans votre livre que, enfin, c'est presque un Européen avant la lettre, Alkan. Il a rejeté personne. Il était très, très ouvert. C'est même étonnant. Il était casanier, mais en pensée, il naviguait, je dirais, dans toute l'Europe. Une grande partie de votre livre est consacrée donc à une enquête. Je ne sais pas trop comment dire autrement. Sur ces trois anciennes mélodies juives, est-ce que vous pouvez nous redire en quelques mots, juste quelques mots sur cette œuvre assez mystérieuse qu'on a retrouvée, je crois, il y a peu de temps, en fait?
Il y a eu un article très intéressant de Chamkerten il y a quelques années déjà, parce qu'en fait, ces mélodies se trouvent sous forme de manuscrits, elles sont inédites, elles sont au conservatoire de Genève. Et Alkan donc a composé ces mélodies pour, enfin il les a composées, il les a arrangées justement pour une de ses élèves, qui a sans doute été élève de Chopin, Zina Mansourov. Cette dame, était demoiselle d'honneur de l'impératrice de Russie. Donc, elle était de confession orthodoxe russe. D'ailleurs, j'ai retrouvé sa plaque à l'église orthodoxe russe de Genève, enfin, cathédrale de Genève. Enfin, sa plaque commémorative de son décès. Il se trouve aussi qu'elle a connu, enfin, que Nietzsche l'a rencontré. Enfin, c'est un épisode qui est très, très intéressant. Alors, le point de départ de tout mon travail, et que je pensais n'être qu'un article au départ, c'est cette découverte que la troisième mélodie d'Alcan est en réalité la reprise d'un air d'un psaume de Benedetto Marcello. Marcello était dans les synagogues de Venise. Il a noté, enfin on suppose que c'est lui qui écrivait.
De quelle époque est-il, Marcello? Est-ce que vous pouvez rappeler
Oui, fin 17e, début 18e siècle. Et il a composé des psaumes qui s'appellent l'Estro Poetico Harmonico. Et donc, dans un de ses psaumes, le dixième en particulier, il a inclus dans ses psaumes, excusez-moi parce que je vais tellement vite, il a inclus dans ses psaumes des intonations hébraïques, des intonations chrétiennes et même un air grec tout à fait, pas forcément attesté, mais dans les mélodies juives qu'il a prises dans les synagogues ashkenazes et séfarades. Donc il les a inclus, il les a incorporés, il les a travaillés. Alors Alcan a repris, parce que c'est tout à fait flagrant, dans la troisième, comme troisième mélodie, c'est une mélodie sans parole, qui est écrite pour piano, pour clavier à trois mains, ou pour, donc avec une personne supplémentaire qui joue, ou pour clavecin, ce qui est aussi unique dans son œuvre. Il a repris le final du psaume 10 de Benedetto Marcello. C'est-à-dire que Marcello cite l'air qu'il a appris dans la synagogue, il le cite en hébreu, et ensuite il compose une pièce. Donc je crois que, Hervé, nous allons entendre ces trois pièces comme ça dans l'ordre, à savoir l'intonation hébraïque qu'a noté Benedetto Marcello. En second lieu, la page que Marcello a composée, donc le final du psaume 10. Et enfin, l'œuvre qu'Alcan a certainement été reprendre.
Donc nous entendons tout de suite ces trois morceaux qui se succèdent.
Betzes Yisroel Mimitzroim Peis Yaakov me'am lo'ez. Oiso Yehudo le'kodesho, Yisroel mam shalosov.
Venons d'entendre successivement l'intonation hébraïque donc, du Betzet Israël, donc extrait du psaume du final du psaume 10, de Marcello. Ensuite, la version de Marcello elle-même interprétée par le chœur de Corboz. Et enfin, la troisième mélodie de Halcan qui reprend, comme on l'entend bien, le thème donc extrait de l'Estro Armonico de Marcello. Un petit mot, Annie, sur Marcello. Je crois que vous avez donc les dates exactes de Marcello. Si vous pouvez nous les redonner, peut-être nous dire, en fait, parce que ça se passe à Venise, c'est quand même assez particulier aussi. Je crois qu'à cette époque-là, il y a déjà depuis quelque temps un courant humaniste assez fort et on s'intéresse aux sources. Il me semble que les humanistes chrétiens s'intéressent aux sources hébraïques. Est-ce que c'est pour ça que Marcello, dont vous nous donnerez les dates tout de suite, s'est intéressé à ces mélodies juives, enfin à ces intonations juives des psaumes?
Alors Benedetto Marcello, donc c'est à la fin du XVIIe, début XVIIIe, 1686-1739. Donc il était non seulement compositeur, mais il était avocat, magistrat, membre du Conseil des 40 à Venise. C'est un homme qui menait grand train, qui n'était pas spécialement tourné vers la religion dans sa jeunesse. Il a écrit de nombreuses œuvres profanes. Et donc, il a eu une révélation parce qu'il a échappé à la mort brutalement. Et il s'est ensuite consacré donc à des œuvres plus religieuses. Il est devenu camerlingue à Brescia à la fin de sa vie. Et il a travaillé donc à l'élaboration de psaumes. Traduit en italien, en langue vernaculaire.
Mais est-ce qu'il suivait pas un peu l'exemple, moi je pense à Böschner ou Münster, qui est, il me semble en 1656 ou quelque chose comme ça, qui sont ces humanistes qui ont retranscrit pour la première fois ou presque les fameux accents bibliques, les théamim, en note, si je puis dire. Est-ce qu'il est pas un peu dans cette lignée, Benedetto Marcello, ou c'est vraiment plus tardif?
C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est surtout très curieux d'esprit, mais qui a une arrière-pensée aussi religieuse. Mm-hmm. C'est un homme qui est très chrétien. Il met en musique les psaumes traduits par Girolamo Giustiniani. Ce sont des psaumes qui incluent évidemment la notion de Jésus, l'idée de Jésus comme Messie. Et il rattache, en fait, son idée de rattacher sa musique à la musique ancienne, à la musique antique, pour trouver peut-être une justification. Alors, je n'irai pas plus loin, il y a d'excellents livres là-dessus, d'accord, en particulier de Marco Bizzarrini. Moi, je me suis occupée quand même d'essayer de retrouver justement la raison pour laquelle Marcello aurait pu utiliser et comment il aurait fait, et quels sont en fait les extraits qu'il aurait pu utiliser, parce qu'il devait en avoir de nombreux à sa disposition. Parce que le texte italien ne se rapporte pas à la citation.
D'accord. Et alors, je voudrais juste revenir sur ces trois mélodies, parce que c'est quand même une grande partie de votre livre, plusieurs chapitres qui sont consacrés à une description très précise de ces trois mélodies. Les deux premières mélodies, est-ce que vous pouvez nous donner les titres de ces mélodies?
Oui, alors c'est un Adonolam de Nouvel An, hein, il l'intitule comme ça, Chant du Nouvel An, il dit. En fait, c'est un Adonolam avec une mélodie très caractéristique du rite ashkenaz.
Et la deuxième?
Et la deuxième, c'est un Terachem Tzion. En fait, c'est une des keynotes, c'est la fin des keynotes, c'est-à-dire de Tisha B'Av, c'est ça, une des récitations que l'on fait après les lamentations et après, donc, les keynotes de Tisha B'Av à la fin, qui porte, bon, en titre pour Halcan, rétablissement, consolation et espérance pour le rétablissement. Alors évidemment, quand on pense à Zinan Mansourov, la dédicataire, hein, qui était une personne de confession orthodoxe, on pourrait d'abord penser qu'il s'agit du rétablissement parce qu'elle était souffrante ou quelqu'un de son entourage. En réalité, il n'y a pas plus profondément juif que cette pensée-là, qui est celle du rétablissement, que l'on ne fêtait plus, ou disons à laquelle on ne prêtait plus tant d'attention au XIXe siècle.
En fait, le rétablissement, c'est le rétablissement de Sion, d'Israël sur sa terre.
Or, les prières avaient souvent été supprimées parce qu'on considérait que la France était la terre promise.
Et là encore, on voit à quel point Halcan est dans le double langage, voire le triple langage. C'est ça qui est passionnant dans son œuvre, c'est que tout se lie à différents niveaux.
Tout à fait.
Le temps passe vite, on va être obligé d'avancer. Et vous nous avez amené de nombreux exemples, j'en ai amené aussi d'ailleurs. Et je voudrais vous faire entendre tout de suite un extrait de sa très belle sonate pour violoncelle et piano. Sonate qui a été donnée récemment, le 26 mai 2013, à la synagogue de la rue Copernic. Une très belle interprétation de la violoncelliste Martine Bailly et du pianiste Olivier Gardon. dont nous allons écouter tout de suite un extrait donc, du troisième mouvement. Malheureusement, trop court extrait de cette très belle sonate qui a été donnée donc à la synagogue de la rue Copernic le 26 mai 2013. Enregistrement en live, vous avez entendu tout, donc qui m'a été prêté par Bruno Freitag, que je remercie ici infiniment. Et dans cette même sonate, d'ailleurs, Martine Bailly, la violoncelliste, a constaté que des thèmes qu'elle jouait était repris dans une autre œuvre de Halcan, une prière, la prière numéro 11 pour orgue de Halcan. On parlait d'autocitation et on va entendre tout de suite à quel point c'est un court montage. On peut retrouver dans deux pièces différentes le même passage ou presque, sauf que l'un est en binaire et l'autre en ternaire. On écoute tout de suite cette pièce. Donc de deux pièces, toujours la sonate pour violoncelle et piano de Halcan, suivi d'un extrait de la prière numéro 11 pour orgue, où on voit comment Halcan, dans une continuité, presque à la manière des prières de la synagogue, fait circuler non pas seulement des thèmes, mais des cellules mélodiques, comme on le trouve dans le chant ashkénaze, mais dans beaucoup de liturgies, à travers ces différentes pièces. Mais l'œuvre d'Halcan, on l'a dit, n'est pas seulement juive, bien au contraire. Il a écrit des œuvres pour tous. Et il a une modernité incroyable, Halcan, je crois, et dont vous allez nous parler tout de suite après qu'on ait entendu cette pièce d'une modernité résolue qui s'intitule « Le chemin de fer ». Court extrait du Chemin de fer, l'opus 27 de Charles Valentin Halcan. c'est un peu le, ce qui est frustrant dans cette émission, c'est qu'on veut faire entendre beaucoup et à chaque fois on a envie d'entendre plus, mais c'est aussi l'objectif de cette émission. Mais on va entendre plus, je crois, Annie, puisque comme on l'a dit, 2013, c'est le bicentenaire d'Alcan et vous aurez l'occasion de l'entendre longuement. Et cette œuvre, en quoi est-elle moderne et pourquoi considère-t-on encore aujourd'hui Alcan comme un précurseur, Annie Kessus-Dreyfus?
Mais Alcan, j'ai remarqué, était un des seuls compositeurs, on va dire, d'une époque passée, convié à participer à être sur les programmes plutôt de compositeurs contemporains comme Nancarrow, Cowell ou John Cage. Parce qu'on entend un petit peu déjà ce système de musique répétitive, cette virtuosité, cette façon aussi de travailler un thème. Et c'est Laurent Martin là qui jouait la pièce Le Chemin de Fer. C'est une virtuosité excessivement infernale parfois. Mais la pièce n'est pas plus simple que Le Festin d'Ésope, par exemple, qui est paru donc en 1857 et qui a été donnée à l'entrée au conservatoire en 1905 au concours femmes. Donc c'est dire le niveau déjà d'entrée des
compositions
des candidates.
Candidates. Voilà. Ouais, oui, tout à fait. Eh bien écoutez, comme cette émission va malheureusement bientôt se terminer, vous nous avez apporté une dernière œuvre, une très belle œuvre, une barcarolle. Une barcarolle, c'est quoi étymologiquement, c'est pas une pièce qui évoque l'eau, il me semble?
Oui, voilà, qui est certainement d'origine italienne, peut-être, ou vénitienne.
Eh bien, on va rejoindre Venise et Benedetto Marcello avec cette très belle barcarolle que nous allons entendre.
Je voulais vous dire que c'est peut-être une des seules pièces vraiment connues d'Alcan. Je ne sais pas si elle est encore connue de nos jours, mais Yasha Heifetz en a fait une adaptation pour violon.
Magnifique. Voilà. Eh bien, nous allons entendre donc cette barcarolle, opus 65, numéro 6.
Par André Hamelin.
Très belle rêverie, cette barcarolle donc de Charles Valentin Alcan. Donc Annie Kessus-Dreyfus, on vous aurait encore bien écouté des heures, mais malheureusement, toute bonne chose a une fin, comme c'est le cas pour cette émission. Je tiens à rappeler à nos auditeurs donc qu'ils peuvent se procurer le livre de Annie Kessus-Dreyfus, Le passant du pont de l'Europe, Charles Valentin Alcan, Entre tradition et modernité, le sous-titre est bien choisi, donc publié aux éditions Massorette. On peut le trouver dans différentes librairies musicales, on peut le trouver également au musée d'art et d'histoire du judaïsme, ou le commander directement à l'adresse suivante, bicentenairealcan, en un seul mot, @gmail.com. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez également poser des questions à notre invité par mail à l'adresse de l'Institut européen des musiques juives, que je rappelle, contact@iemj.org. Nous ne manquerons pas de vous transmettre à Annie toutes les réflexions de nos auditeurs ou leurs commandes. Chères auditrices, chers auditeurs, notre émission est terminée. Si vous souhaitez la réécouter ou la conseiller à vos amis, je vous rappelle qu'elle est disponible le lendemain de sa diffusion sur le site de l'Institut européen des musiques juives, www.cfmj.fr, ainsi que sur judaïkfm.com, dans la rubrique podcast. Au micro Hervé Rotten, mon invité que je remercie infiniment, Annie Kessus-Dreyfus. Merci beaucoup Annie.
Merci Hervé. Merci
et à la technique Avner, l'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée, en musique bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïk FM.
sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey, now I'm wild over honey child. Honey child's got me feeling funny, I'm good schlagen, muddy in the noggin, oh. I'm my sugar for my sugar, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me.